écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 14 février 1779, la mort du capitaine Cook. Après ces deux voyages d'exploration dans le Pacifique entre 1768 et 1771, puis entre 1772 et 1775, la renommée de James Cook est immense. En 1976, il est choisi par l'amirauté britannique pour accomplir une troisième expédition autour du monde. Aux traditionnelles missions de découverte s'ajoute la recherche d'un passage de l'Atlantique au Pacifique par le nord de l'Amérique. Le 13 février 1779, Cook a quitté l'Angleterre depuis plus de 2 ans. Après avoir exploré le Kamchatka à la pointe orientale de la Russie, où il se trouve aux îles Hawaï, avec ses 2 navires, le Resolution, un sloop d'environ 35 mètres qu'il commande avec ses 112 membres d'équipage, et le Discovery, un brick de 28 mètres armé de 8 canons. Depuis 2 jours, les navires sont à l'ancre dans la baie de Kaelakewa, dominée par une immense falaise sur la côte occidentale de l'archipel. Les insulaires, menés par leur roi, se plaignent de la présence de l'atelier de réparation à côté de leur temple. Les charpentiers anglais qui réalisent un nouveau mât pour le Resolution constatent la disparition de leur matériel, pinces, scies et rabots. Des autochtones s'attaquent à des matelots. Ils les frappent à coups de pagaie et de rames. Vers 22 heures, 5 silhouettes s'approchent du bateau de Cook. Se sentant découverts, les assaillants se retirent hors de vue. Vers minuit, l'un d'entre eux s'aventure jusqu'à l'observatoire du navire. La sentinelle tire sur lui, les indigènes s'enfuient, le restant de la nuit se déroule sans heurts. Le 14 février 1779, à 6 heures, Cook contemple le ciel pâle de l'aube. Il est calme, rasé, vêtu de son plus bel uniforme, il attend. Le capitaine Charles Clerke, commandant du Discovery, se présente à lui, l'air visiblement préoccupé. Il annonce le vol de la grande chaloupe du vaisseau. Immédiatement, Cook envoie des embarcations pour interdire aux pirogues de sortir de la baie. Lui-même se rend à terre avec plusieurs barques et des matelots en armes. Il débarque à Kawarea, l'un des 2 villages de la baie. Avec 10 soldats, il marche jusqu'à la case de Kalaniopuu, le roi de Hawaï, avec lequel il entretient d'excellentes relations. Cook lui relate le vol de la chaloupe et le convie à bord du Resolution dans l'intention de le garder en otage jusqu'à la restitution de la chaloupe. Malgré les supplications de ses proches, Kalaniopuu accepte de suivre les Anglais. À proximité de la rive, 2 chefs locaux interviennent pour le dissuader. Déconcerté et troublé, le souverain tergiverse. À cet instant apparaissent 2000 indigènes, la plupart en armes. Leur courroux se transforme en cris de colère. Ils jettent des pierres, les matelots se défendent à coups de crosse et de baïonnette. Cook tire sur un homme et le tue. D'une salve, les soldats anglais arrêtent cette masse humaine, mais le prêtre Koa surgit et frappe Cook avec un casse-tête. Le capitaine trébuche, tombe à genoux dans l'océan et lâche son arme. Avant qu'il ne puisse se relever, un indigène le poignarde dans le cou. En quelques minutes, les guerriers Hawaï le tirent sur la grève et s'acharnent sur son corps. Dans l'affrontement, 4 soldats anglais sont tués, 3 autres sont blessés, avant de rembarquer. Le 22 février 1779, les restes du capitaine Cook sont immergés, salués par les salves de l'artillerie des deux navires qui le lendemain quittent Hawaï. Désormais commandant de l'expédition, Clerke décide de poursuivre le relevé des îles commencé par son prédécesseur. Il tente également de trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Le 24 avril, les explorateurs atteignent le Kamchatka et mouillent à Pétropavlovsk. C'est là que Clerke envoie une lettre à l'amirauté britannique pour annoncer la mort à 50 ans du capitaine Cook. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé comme chaque semaine par Emmanuel. Nous écoutons William Scheller, un de ses premiers succès. C'était en 1976 dans un vieux rock'n'roll.
Ça tient souvent à presque rien, un simple geste de sa main a changé jusqu'au bout mes moindres habitudes, et c'est bien. Je te dis ça, c'est entre nous, mais les amours de passe-partout m'ont laissé l'impression d'une drôle de solitude après coup. Et si je craque, c'est pas des histoires. Brisant si tu veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Comme dans un très vieux rock'n'roll. Serre la main d'un fou que rien ne résonne. Passant la bride sur mon cou, une fille au charme aigre doux emplit ma vie d'un mieux que je ne saurais dire, et c'est beaucoup. Je sais d'elle encore peu de choses, mais justement ce que j'en suppose est le début d'un jeu qui fait qu'elle m'attire et s'impose. Si je craque, c'est pas des histoires. Brisant si tu veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Comme dans un très vieux rock'n'roll.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, à commencer par Le secret de la danseuse de Michel Hayat aux éditions Écriture à Tunis. Dans les années 1950, Pia, 12 ans, se sent invisible aux yeux de sa mère, femme oisive et frustrée. Pour rompre sa solitude, son père décide de l'inscrire dans un cours de danse classique. Elle tombe sous l'influence de Delphine, une camarade qui semble avoir tous les talents qu'elle-même n'a pas. Beauté, intelligence, espièglerie et un don inné pour la danse. Rien ne saurait plus les séparer, rien si ce n'est un accident. Un jour, la future étoile se brise la cheville. Son partenaire l'a-t-il mal réceptionné ? Plus inquiétant, à peine remise, l'enfant prodige disparaît, en même temps que son ancienne nourrice, Jamila. Fugue, enlèvement, un mystère dont parlent même les journaux. Pia ne s'y résout pas. Un hasard va lui révéler le secret qui les hantera jusqu'à l'âge adulte dans le Paris des années 1960. Une histoire de fidélité et de résilience avec d'indéniables échos autobiographiques. Le secret de la danseuse, c'est signé Michel Aya aux éditions Écriture. Une poussée de fièvre, l'histoire de la femme qui fit chuter le Ku Klux Klan. C'est signé Timothy Egan aux éditions Le Cherche Midi. L'auteur nous livre ici une véritable enquête des sources du racisme et de la haine dans l'Amérique des années 1920. Des années 20 aux États-Unis, c'est certes l'âge du jazz, des fêtes, mais surtout celui de la haine la plus brutale et la plus abjecte. Le Ku Klux Klan y atteint en effet son apogée. À sa tête, un homme dangereux, manipulateur et ultra-violent, D.C. Stephenson. Il va permettre au Klan d'étendre son influence, de pénétrer dans les familles, les écoles, les pique-niques du dimanche. Sous sa direction, l'organisation raciste va jusqu'à développer un plan pour prendre progressivement le pouvoir à Washington. C'est une femme, Madge Oberholzer, une enseignante, qui va faire chuter le Ku Klux Klan et son chef. Kidnappée, séquestrée et violée par Stephenson, elle trouve, malgré les menaces, le courage de parler, de désigner et nommer ces hommes qui terrorisent le sud des États-Unis. Elle va décéder des suites de ses crimes, d'une combinaison de staphylocoques, conséquence de ses blessures, et d'une affection des reins due à son auto-empoisonnement pour échapper à son tortionnaire par le suicide. Sur son lit de mort, Madge Oberholzer décrit de manière très claire les agressions de Stephenson, permettant ainsi la condamnation de ce dernier en 1925. Son témoignage provoque un scandale sans précédent et une prise de conscience de la réalité du Ku Klux Klan. Grâce à elle, jamais le Klan ne retrouvera sa sombre et inquiétante influence dans la société américaine. Une poussée de fièvre, l'histoire de la femme qui fit chuter le Ku Klux Klan de Timothy Egan s'est publiée aux éditions du Cherche Midi. Et nous terminons cette chronique par Terre somnambule de Mia Couteau aux éditions Métayer. Sur une route déserte, un vieil homme et un enfant marchent épuisés dans un Mozambique déchiré entre troupes régulières et bandes armées. Devant eux, un autobus ou ce qu'il en reste. Tôle incendiée, corps pêle-mêle, un asile pourtant où le vieillard et l'enfant vont faire halte et découvrir miraculeusement intacts les cahiers d'une certaine Kinsu. Le récit de cet homme parti vers l'inconnu et l'aventure pour renouer avec l'esprit des sorciers et des guerriers sacrés leur livrera peu à peu la clé de leur destin. Épopée fascinante et douloureuse d'un peuple en proie à la guerre civile qui survit enraciné dans ses traditions et ses mythes plus fort que toute réalité barbare. Cette œuvre magique puise dans l'imaginaire africain et rejoint par la beauté surprenante dans son style la grande tradition des romanciers de langue portugaise. Publié par Albin Michel en 1994 et épuisé aujourd'hui depuis de nombreuses années, ce premier roman de Mia Couteau a surpris par sa créativité littéraire due au mélange de la langue portugaise avec les nombreuses langues mozambicaines. Il a été traduit à l'époque dans un français classique. Aujourd'hui, il est retraduit avec une inventivité linguistique qui a fait le succès des romans récents de Miyakoto, lui rendant ainsi fidèlement la beauté surprenante de son style. Terre somnambule de Miyakoto s'est publié aux éditions Métayer. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours William Scheller. Nous écoutons Les filles de l'aurore. C'était en 1983.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aura, quand le soleil monte à Saint-Jean, voudrais me dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés, ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont tous.
Thank you.